Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Des matchs féroces et engagés, il en a connu avec l'équipe de France durant son immense carrière, mais aussi engagé que ce France-Afrique du Sud au Vélodrome. Je ne sais pas, bah tiens, on va lui poser la question. Notre légende Imanol Arinordoki est avec nous. Salut Imanol.
Eh oui, c'était du solide. Bonjour tout le monde.
Eh ouais, t'étais à Marseille, ça a pas mal piqué, je crois.
Hein, ça cognait très fort.
Ça t'a rappelé des bons souvenirs.
Ça m'a rappelé des bons souvenirs, ouais. Mais quand tu gagnes, c'est toujours des bons souvenirs, même quand ça cogne fort.
Eux, ils sont au plus près de l'équipe de France. Ils vont nous donner toutes les dernières infos avant le dernier test de la tournée face au Japon dimanche. Jérémy Fada et Marc Duzan du Midi Olympique. Salut les gars. Alors, je n'exagère pas quand je dis que vous êtes au plus près de l'équipe de France, notamment toi, Marc, parce que alors, toi, tu es carrément dans l'auditorium. Tu as privatisé l'auditorium de Marc Coussi, c'est dire l'influence que tu as.
Oui, le 15 de France m'a gentiment prêté l'auditorium, mais ils ont coupé le chauffage au préalable quand même parce que je me pèle un peu les... Je me pèle un peu, voilà. Économie d'énergie jusqu'au bout.
Jérémy, ça va, t'es en forme?
Ouais, ça va pas trop mal. Salut Olive, salut Manol, salut Marco, évidemment.
Eh oui, on traîne pas parce que Marco a pris l'entraînement des Bleus dans une heure maintenant. Bon, messieurs, on devait consacrer ce numéro exclusivement au 15 de France, débattre de ce succès contre l'Afrique du Sud et se projeter sur le test face au Japon. Et puis, on a été rattrapé par l'actualité. Alors, on va évidemment accorder une large place aux Bleus dans la deuxième partie. Mais on va démarrer par cette nouvelle. Christophe Furios et Bordeaux, c'est terminé. Le président Laurent Marty a mis fin aux fonctions de son manager avec effet immédiat. Mais alors pourquoi cette décision? Quelles conséquences pour la suite de la saison? Et qui pour remplacer le charismatique technicien? Bien, on en parle tout de suite dans Arrêt Buffet. Messieurs, comme Edzebeth dans les rucks, on s'élance avec un maximum d'engagement. Arrêt Buffet, c'est parti. Un communiqué laconique pour confirmer les rumeurs qui couraient depuis quelques jours. L'Union Bordeaux-Bègles a donc décidé de se séparer de son manager Christophe Furios avec effet immédiat. Le technicien bordelais n'a pas survécu à la large défaite à Pau. Alors c'est vrai qu'on savait que des tensions existaient depuis des mois entre Christophe Furios et ses joueurs. On se souvient des passes d'armes avec Cameron Wauki et Mathieu Jalibert. Mais on n'imaginait pas le président Laurent Marty débarquer en cours de saison son manager. Pour rappel, Bordeaux est actuellement 11e du top 14. Mais à 5 points seulement des places qualificatives. Messieurs, je vais commencer d'abord par vous, Marco et Jérémy. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage sur cette histoire? Pourquoi cette décision de Laurent Marty? Est-ce que le mal était si profond?
En fait, nous, on n'est pas si étonnés que ça. Je vous avoue qu'on guettait un peu parce que les choses étaient encore plus tendues ces derniers jours, voire ces dernières semaines, avec en point d'orgue la défaite à Pau, la défaite de trop, dont l'ampleur n'a pas plus au président Marty. Mais en fait, les tensions remontent à bien avant. Tout le monde a évidemment en tête le clash avec Mathieu Jalibert et Cameron Wauki en fin de saison dernière, qui avait cristallisé ces tensions, c'est vrai. Mais en fouillant un petit peu, on se rend compte que ça remonte même plus loin que ça, depuis le début d'année 2022. Il s'était quand même mis une partie du groupe à dos. Là. Vous vous rappelez de cette série de résultats négatifs qu'il y a eu à ce moment-là? Il y a eu quand même pas mal de tensions dans le groupe, avec une petite partie du staff. Et ces tensions-là, elles existaient depuis un petit moment aussi avec Laurent Marty, qui lui faisait des reproches quand même sur son management, notamment de s'éparpiller dans ses différentes activités. Il n'empêche, Laurent Marty, il y a un an de ça, il lui a fait signer une prolongation jusqu'en 2025. Il avait déjà des griefs contre lui, mais il avait considéré que ça restait l'homme de la situation, fort de son bilan qui était jusque-là remarquable. Hein. Il avait amené plusieurs fois dans le dernier carré l'UBB qui attendait ça depuis très longtemps. Voilà. Sur le début de saison, par contre, on s'est rendu compte que le courant, il était quand même toujours coupé avec une partie des joueurs. Je finis juste, certains cadres l'ont fait remonter récemment à Laurent Marty, qui, je pense, a pris ces 10 jours là de réflexion pendant les vacances. Il a vu Christophe Furios en début de semaine. Les 10 jours, ça servait aussi certainement à réfléchir à une modalité financière parce que ça coûte très cher quand même au président Marty. Il a tranché dans le vif, il a décidé de se séparer de Christophe Furios et l'accord a été trouvé, je crois, hier entre les avocats interposés.
Pour faire clair, enfin, il est toujours plus facile de se débarrasser d'un entraîneur que de 35 joueurs. Donc Marty, il a tranché entre son groupe et son entraîneur aujourd'hui. Laurent Marty, il veut que Mathieu Jalibert, qui était en froid avec Christophe Furios, reste au club et incarne le club à moyen et très long terme. Et entre ces deux personnages, il a clairement tranché. Quoi. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a un peu une vendetta personnelle entre Marty et Furios. Marty lui a souvent reproché de prendre toute la lumière à Furios. Hein. Il faisait des grandes gueules sur RMC, il avait des reportages de 10 minutes sur le Calal Rugby Club. Enfin, il incarnait vraiment le club et Laurent Marty, le fondateur, le créateur de l'UBB, vivait un peu dans l'ombre de Christophe Furios. Et je crois savoir qu'il le vivait mal. Et c'est une façon aussi, voilà, comme une autre, de se débarrasser un peu de cette emprise, quoi.
Oui, mais c'est un peu pour ça qu'il l'avait fait venir aussi. Il est allé chercher un technicien charismatique qui lui a amené de bons résultats. Jérémy l'a évoqué. Il y a quand même eu deux demi-finales de Top 14, une demi-finale de Coupe d'Europe. Imanol, toi, quel est ton avis là-dessus? Ce n'est pas une décision anodine de se séparer de son manager en cours de saison. Pour les joueurs, ça va être une deuxième moitié de saison assez particulière maintenant.
Oui, ça va être compliqué parce qu'on est quand même tôt dans la saison. Donc, il va falloir composer, il va falloir retrouver de la motivation, des ressources en interne. Alors, c'est les adjoints de Christophe Furios qui vont certainement prendre la suite jusqu'à la fin de la saison. On parle de Yannick Bru, dont on connaît les très bons résultats à l'Aviron, qui est actuellement les Sharks en Afrique du Sud, qui est pressenti, même s'il n'y a rien d'officiel. Voilà, après, pour revenir sur Christophe Furios, je pense honnêtement, il a vraiment fait le job. Laurent Marty, il allait chercher quelqu'un de charismatique, qui a amené un supplément de caractère. C'est un peu ce qui manquait à cette équipe de Bordeaux pour atteindre ces qualifications, enfin, ces phases finales chaque année. Il faisait souvent des très bons débuts de saison. Et puis à partir de janvier, février, mars, ça commençait à décliner. On sentait qu'il y avait... Ça pêchait en tout cas mentalement. Et je crois que Christophe Furios, il a amené cette force de caractère. Je pense que son bilan, il est quand même positif. Hein. Voilà, on l'a évoqué. Il a aussi su incarner et implanter le club vraiment dans sa région. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites sur et en dehors du terrain. Ça fonctionnait quand même aussi très bien avec les joueurs. Alors peut-être, il y a eu peut-être même trop de passion parce qu'à un moment donné, voilà, c'est aussi... un management à l'affect et ça a dû bloquer. Les résultats n'aidant pas, moi je pense vraiment, même si ça remonte, comme vous le disiez, peut-être en début d'année, je crois que vraiment qu'il y a eu une scission au moment des phases finales où Christophe Furios il a clairement ciblé les joueurs phares, à savoir Cameron Rocky et Jalibert, qui n'ont pas forcément répondu présent. C'était à double tranchant. Hein. Et puis voilà, Woki qui a pris la décision de partir, c'était pas des bons signaux non plus pour vis-à-vis de l'extérieur pour des joueurs qui auraient aimé signer peut-être à l'UBB. Quand on voit des joueurs internationaux en puissance qui quittent le club, c'est jamais un bon signal. Et certes, comme pour rejoindre les propos de Marco, je pense que Laurent Marty a eu peur aussi que Jalibert fasse de même. Et à ce moment-là, c'est quand même compliqué de repartir sur un projet, parce qu'à la base, le projet, c'était quand même début d'année. Voilà, c'était Urios, Woki, Jalibert, et construire le projet et le groupe autour de ces joueurs-là. Donc,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir, qui ont dit, qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus travailler avec Christophe Furios.
Comme a dit Marco, hein, c'est toujours plus facile de virer un mec que 35 mecs. Pourtant, c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain. C'est les joueurs qui en ont pris 30 et quelques à Pau. Hein. C'est pas Christophe Furios. Mais il y a certainement des discussions qui ont eu lieu avec les cadres de l'équipe. Et Laurent Marty a pris la décision en ayant discuté certainement avec pas mal de membres aussi du staff, peut-être, et des joueurs, de se séparer de Christophe Furios.
Bon, pour l'instant, il y a pas mal de flou encore. Avant de parler de l'avenir, donc juste pour être clair, en fait, Laurent Marty, il a presque eu peur de perdre Mathieu Jalibert à l'issue de la saison, après avoir perdu Cameron Rocky, finalement. Il y avait de trop fortes tensions entre les stars de l'équipe et Christophe Furios.
Mais même les relations aujourd'hui, voilà, c'est un secret de polichinelle, elles sont fraîches aussi, très fraîches, entre Mathieu Jalibert et Laurent Marty. Mathieu Jalibert, il s'est ému publiquement du départ de Cameron Woki. Laurent Marty lui a répondu en lui demandant de se concentrer sur le jeu. Et depuis, voilà, c'est très frais entre les deux hommes. Et je pense aussi c'est une manière pour Laurent Marty d'essayer peut-être d'amener un rapprochement avec son joueur phare. Voilà, Laurent Marty, il a quand même réfléchi. Hein. Il n'a pas fait ça à la légère. Il a consulté les joueurs. Il a vu aussi, ça aussi, c'est aujourd'hui un secret de polichinelle. Il y a plusieurs joueurs qui ont mis l'avenir du staff et de Christophe Furios dans la balance au moment de discuter d'une éventuelle prolongation. Le recrutement, clairement, il n'avançait pas parce que mettez-vous à la place d'un joueur qui est contacté par l'Union Bordeaux-Bègles. Quand on ne connaît pas l'avenir du staff, c'est dur de s'engager. Et si Christophe, si Laurent Marty, il a un peu sondé le marché et qu'il a reçu Yannick Bru en début de semaine dernière pour évoquer une collaboration pour la saison prochaine, je souligne bien pour la saison prochaine, c'est pas loin d'être fait d'ailleurs, mais c'est pas pour rien. On avait bien compris quand même que le temps de Christophe Furios à la tête de l'effectif de l'UBB était compté.
Alors, dans le communiqué, il est bien précisé que pour l'instant, les adjoints Frédéric Charrier et Julien Laherre poursuivent leur mission au club, parce qu'il y a quand même une saison à terminer. Bordeaux est largement dans les clous. Hein. Bordeaux est certes 11e, mais à 5 points de la première place qualificative.
Hein. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Les infos qu'on a remontées ce matin, ils continuent tous les deux. Fred Charrier, cette semaine, est avec les Barbarians français. Donc, je pense que peut-être que s'il y a une hiérarchie qui doit être établie, ce sera un petit peu plus tard. Mais oui, ce sont les hommes en place qui, on pense en tout cas, devraient finir la saison.
Et Yannick Bru, dans le milieu olympique, déjà le week-end dernier, vous évoquiez le cas de l'arrivée de Yannick Bru. Donc, ça semble se confirmer, hein, comme tu le disais il y a quelques instants. C'est un bon choix pour vous, messieurs, Yannick Bru? C'est une évidence?
Et surtout qu'il va avoir le luxe de choisir son staff, puisque je crois que les deux adjoints aujourd'hui de Christophe Furios sont en fin de contrat en juin. Donc voilà, c'est sûr que pour un manager et pour le côtoyer, je sais qu'il voulait prendre un peu de recul pendant un an, mais revenir aux affaires quand même rapidement. Et voilà, avoir un club de l'envergure de l'UBB à reprendre, c'est forcément un superbe, superbe challenge. Et voilà, après, c'est sûr qu'on connaît sa rigueur et puis ses résultats parlent pour lui. Donc, je pense qu'un club comme l'UBB aussi qui aime faire naître certains, ou en tout cas éclore certains talents, s'appuie aussi sur la formation. Je pense que ça a tout à fait le projet peut-être que veut mettre en place Laurent Marty. Donc, il me tarde de voir ce que ça va donner, oui.
De ce que je comprends, Laurent Marty voulait terminer la saison avec Yannick Bru, mais Yannick Bru vient de rentrer en Afrique du Sud où il a fait venir toute sa famille. Sa famille vient de le rejoindre en Afrique du Sud. Donc, il finit son séjour tranquillement avant de renquiller sur la saison prochaine. Quoi. Ouais, t'as mais pas il se met aussi en danger quelque part, Yannick Bru, parce que jusque-là, enfin, je veux dire, il n'était pas soumis à énorme pression à l'aviron bâillonné. Lui demandait-on, aujourd'hui, il va avoir un effectif de star et il va être attendu au coin du bois. Quoi.
T'as d'ailleurs les stars à Marcoussis, tu les as croisés là depuis cette annonce?
Non, pas encore, puisque là, mercredi 14h48, le premier entraînement des Bleus, c'est dans une heure. Ils ont vraiment eu besoin de se reposer après le match des Springboks, puisque ouais, c'est vraiment rare que le premier entraînement de la semaine soit le mercredi après-midi. Quoi. Je ne les ai pas encore croisés, mais dans une heure, oui.
Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y aura un large dossier, évidemment, consacré à cette histoire, j'imagine, vendredi dans le Midi Olympique. Messieurs, prochain rendez-vous sportif pour Bordeaux, ce sera donc lors de la prochaine journée, le 26 novembre à Perpignan. Les joueurs se sont mis une sacrée pression quand même avant ce match à l'USAP. Il ne va pas falloir se louper à Aimé Giral.
Et vous vous rappelez d'ailleurs que c'est après une défaite à Perpignan, dernière journée de la phase régulière l'année dernière, que Christophe Furios avait fait ses fameuses déclarations sur Wookie et Jalibert, qui avait un petit peu fait exploser le vestiaire. Voilà, c'est un peu l'ironie de l'histoire que le premier match sans Christophe Furios sera encore à Aimé Giral.
Bon, très bien. Voilà pour le cas Christophe Furios. Les rumeurs l'annonçaient à Brive. Hein. J'ai lu ça passer. On n'en est pas encore là, hein, je pense, pour Christophe Furios.
Ouais, la tendance actuelle, ça serait plutôt ce que Christophe Furios y prenne quelques mois de recul, et ce qui semble tout à fait logique, avant d'étudier les offres et de replonger peut-être la saison prochaine, parce que je pense quand même qu'il garde une bonne cote sur le marché.
Ça lui conviendrait bien, Brive, ça ressemble un peu au projet d'Oyonnax à 100 ans, tu sais, un truc un peu village, un peu gaulois, là, je trouve qu'il pourrait bien s'en sortir à Brive.
Ouais, même s'il a changé de dimension lui aussi sur le plan personnel depuis, je pense.
Et oui, c'est ça aussi. Maintenant, il a d'autres ambitions, probablement. Bon, allez, Marco, toi, tu es bien installé dans l'auditorium de Marcoussis. Donc, on va s'intéresser maintenant au 15 de France. Après l'Australie et l'Afrique du Sud, on aurait presque tendance à croire que la tournée de novembre est terminée pour l'équipe de France. Il reste pourtant encore un match à jouer. Ce sera dimanche à Toulouse face au Japon. Messieurs, avant de parler de ce match contre le Japon, je voudrais d'abord qu'on revienne rapidement sur la rencontre face à l'Afrique du Sud. Cet incroyable et féroce spectacle offert samedi. Ce match avait la beauté du diable, comme tu l'as joliment écrit d'ailleurs, Marc, dans le Midi Olympique lundi. À froid, après quelques jours, la question se pose, enfin j'avais envie moi de vous poser cette question, est-ce la victoire la plus marquante des Bleus de Fabien Galthié, Imanol?
Non, pour moi, ce n'est pas la victoire la plus marquante. Je pense que c'est la victoire où on a fait preuve de plus de caractère, parce qu'il a fallu vraiment aller la chercher, courber les chines. Je pense que c'est peut-être le match où on a le plus subi de l'ère Galthié. Il s'en est fallu de peu pour qu'on perde ce match, avec les différents scénarios qui sont produits pendant ce match, les commotions, les sorties de joueurs leaders, une fin de match quand même, où, notamment la seconde mi-temps, on a commencé vraiment à subir le rythme, l'impact physique et les sorties de balles rapides des Sud-Africains. Mais voilà, on a cette force de caractère et la lucidité aussi de faire les bons choix en fin de match, ce que n'ont pas réussi à faire les Sud-Africains. Ils perdent une touche très importante en fin de match. Nous, on a une touche très importante. On fait un semblant de ballon porté. On dévie le ballon pour aller vite chercher la ligne d'avantage et presque marquer. Derrière, il y a juste quelques centimètres à grappiller pour aller marquer cet essai. Mais c'était important quand même pour les Français de se jauger par rapport justement à une opposition encore différente. On l'avait annoncé la semaine dernière. Ça allait être encore un autre style de confrontation. Et pour le coup, ils ont bien été gâtés, ouais, parce que ça a été costaud.
Oui, je t'ai rapidement posé la question en début d'émission. Tu as été marqué, comme beaucoup, par la férocité de ce match. Enfin, toi aussi, tu en as connu quand même des matchs intenses dans ta carrière. C'est vraiment plus fort que tout ce que tu avais vu jusqu'à maintenant, en termes d'intensité?
Sur ce match-là, non, ouais. Parce que les Sud-Africains, c'est toujours très intense. Donc moi, il n'y a rien qui m'a surpris. J'ai vu les Français en tout cas résister, même faire jeu égal par moment. Après, les Sud-Africains, tu sais que quand tu réponds physiquement, bah, en général, rugbystiquement, on a quand même d'autres qualités, donc on peut gagner les matchs. Par contre, quand tu commences à reculer, comme ça a été le cas par moment, et sur certaines séquences, sur les impacts, là, ça devient plus compliqué. Et puis, en plus, on voit que ça leur donne de la confiance. On l'a vu, hein, quand ils ont commencé à dynamiser des ballons, à commencer à nous faire mal, ça les a remis dans le match, quoi. Donc non, ça ne m'a pas surpris. Ça pas non plus, il n'y a pas eu non plus des chocs. Bon, si ce n'est bien sûr ce coup de tête voilà, qui a été sanctionné hein, par un rouge, logiquement. Après, il n'y a pas eu de vilain geste. Ça a été très engagé. Mais bon, voilà, quand on voit un mec comme Uniatonio qui se lance de 20 mètres à stopper net, tu dis que ça cogne fort, quoi.
Moi, ce débat sur la violence, il m'a un peu échappé. Il ne faut pas oublier qu'un match contre les Springboks, ça ressemble à aucun autre. France-Australie n'avait pas été violent. Il n'y a pas de raison pour que France-Japon soit violent non plus. Enfin, je veux dire, depuis le procès qu'on fait au rugby, il est un peu malsain après ce match, quoi. Depuis 3 ans, quand même, World Rugby aménage ses règlements. On fait tout pour protéger les joueurs, au risque même de dénaturer le jeu par moment, quoi. Donc, ben, je ne sais pas, je trouve un peu facile et gratuit ce procès de la violence après ce match. Le rugby est un sport de combat collectif, quoi. Faut pas l'oublier.
C'est pas tant la violence, mais c'est l'intensité, la férocité, puisque les joueurs eux-mêmes l'ont reconnu, n'avaient jamais vécu des chocs pareils, affronter des joueurs d'un tel calibre. C'est aussi les joueurs qui l'ont. C'est aussi les joueurs qui l'ont dit.
Mais c'est propre match contre les Springboks.
Ouais, voilà.
Mais alors pour vous, votre analyse, Marco et Jérémy, est-ce que c'est la victoire la plus marquante des Bleus de Fabien Galthié? Est-ce que c'est plus fort encore que les succès face à la Nouvelle-Zélande ou l'Angleterre, l'Irlande ces dernières années?
Moi, je rejoins Imanol, je ne l'ai pas trouvé vraiment rassurant cette victoire, parce qu'on s'est quand même fait bouger, on casse 3 titulaires, on gagne sur un fait de jeu, un essai litigieux. Enfin, aujourd'hui, si tu me demandes qui est le meilleur entre la France et l'Afrique du Sud, je ne saurais pas quoi te répondre, quoi, vraiment. Puis je me dis aussi que certaines projections, dont les France-Afrique du Sud en quart de finale, et si on gagne ce match contre les Sud-Africains en quart de finale de la Coupe du Monde, avec qui va-t-on jouer l'hypothétique demi-finale? Avec quel survivant, tu vois? Enfin, je ne sais pas. Enfin, on a vraiment été secoués, quoi.
Non, mais moi, je rejoins complètement Marco et Imanol. Pour moi, ce n'est pas le succès le plus marquant, parce que déjà, pour avoir été au Stade de France l'année dernière pour le match face aux All Blacks, sincèrement, c'était quand même un match dans lequel il y avait à peu près tout, où on avait imposé notre rythme, ce qui n'a pas été le cas quand même samedi soir. Et c'est le match qui nous a quand même vraiment fait changer d'air et dimension. Par contre, Bon, déjà, il y a le symbole de battre les champions du monde en titre et surtout de défier une opposition qu'on n'avait jamais connue, cette opposition ultra frontale depuis le début du mandat de Galtier. On ne l'avait pas connue. La très bonne nouvelle, c'est que même si on a été secoué, tout ce qu'on veut, on a réussi à trouver les ressources en fin de match pour aller gagner ce match dans les dernières minutes. Je vous rappelle juste qu'au début de l'ère Galtier, ces bras de fer de fin de match, on les perdait quasiment tous. Et voilà, après, l'autre chose qu'il va vraiment falloir analyser, et là, peut-être Imanol va être hyper intéressant sur ce sujet, c'est que pour moi, cette tournée, elle marque vraiment, définitivement, le fait qu'on est passé de chasseur à chassé. Parce que là, ça fait quand même deux matchs d'affilée où on voit qu'on est ultra surpris par la stratégie adverse. Ça veut dire quand même que désormais, les adversaires nous analysent très bien, nous copient pour certains et surtout nous surprennent pour d'autres. Voilà, et que ce soit les Australiens ou les Box, ils n'ont pas fait du tout ce qu'on attendait d'eux. Et ça, c'est une nouvelle chose que le staff doit prendre en compte pour l'avenir.
C'est vrai qu'on a eu le sentiment d'un manque de maîtrise, notamment offensivement, hein, chez les Bleus. Ça a confirmé ce que l'on avait déjà entreaperçu face à l'Australie. Imanol, ton avis ?
Mon sentiment, c'est qu'après ces deux premiers matchs, on n'a pas de marge de manœuvre. Voilà. On n'a plus de marge de manœuvre. Je pense qu'on maîtrisait beaucoup plus notre sujet pendant le tournoi. Aujourd'hui, on est plus attendu, on est plus regardé. Antoine Dupont est plus mis sous pression. On a des équipes aussi voilà, qui on joue des équipes de haut niveau. Donc, on a l'air d'être surpris, mais voilà, c'est normal quand on joue l'Australie ou l'Afrique du Sud d'avoir une opposition. On a été habitué peut-être voilà, dernièrement à avoir un peu moins d'opposition. Mais aujourd'hui, voilà, les équipes nous travaillent aussi, nous décortiquent, cherchent nos failles, nos points faibles. Et donc, on a moins de marge de manœuvre. C'est ce que je me disais moi, en regardant ces deux matchs. Ça va être plus compliqué. Il faudra tout à l'avenir, ouais, c'est sûr, pour gagner les matchs.
Non, mais vous voyez, l'Australie, à l'analyse du staff du 15 de France, soi-disant qu'ils désertaient le troisième rideau contre nous, ils y ont mis trois joueurs et ça nous a quand même mis un petit peu dans le brouillard pendant un moment. Les Box, on s'attendait à un ping-pong rugby. On s'est rendu compte quand même que les Box ont joué, parce qu'on parle beaucoup de l'affrontement, mais les Box ont joué et notamment ont remonté beaucoup de ballons. Et ça nous a aussi mis un petit peu dans le pétrin. Et voilà, je pense que la marge de manœuvre dont parle Imanol maintenant, c'est cette capacité d'adaptation sur laquelle on devra être peut-être plus efficace dans les rendez-vous à venir.
Bon, et maintenant, alors, place au Japon. Ce sera dimanche après-midi. Les Japonais, évidemment, qui ne représentent pas qui ne sont pas du même calibre hein, que les Australiens et les Sud-Africains sur le papier. Ils ont quand même pris 50 points là, face à l'Angleterre. Les Français, quand même, les ont battus cet été en tournée avec une équipe bis. À quoi il va servir ce match ? Tiens, Marc, toi qui es.
Attends, Olivier, je te demande un peu de respect quand même vis-à-vis de ces Japonais qui ont failli battre les All Blacks il y a 15 jours. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus que le deuxième test à Toyota cet été, France-Japon, un test auquel j'ai assisté, c'est cette victoire française, c'est un hold-up. Hein. Jamais on doit gagner, on se fait bouger de partout, on a du mal à soutenir le rythme imposé par les Japonais. Et sans un exploit de Baptiste Kouyou, ce match, on le perd et on aurait dû le perdre. Donc, ce n'est pas n'importe qui les Japonais. Ceci dit, je te rejoins dans le sens que cette équipe du Japon, c'est quand même a priori l'équipe la plus faible de la tournée de novembre et qu'il serait peut-être temps pour les Bleus de montrer un peu plus d'allant offensif qui n'a été le cas jusqu'à présent, quoi, puisque jusqu'à présent, on marque, je crois, 4 essais, 3 en force par des joueurs de première ligne, Falatea, Marchand et Baye, et 1 sur un exploit personnel de Damien Penaud contre l'Australie. Tu vois, on n'a pas vu de grandes envolées et j'espère que ce match va un peu servir à travailler nos lancements de jeu, quoi.
Ah, ça y est, on l'a envoyé un mois au Japon cet été. Voilà, maintenant on peut plus les critiquer. Bon alors, non, mais à quoi il va servir ce match pour vous ? Est-ce qu'il va permettre de tester aussi d'autres joueurs ? On sait qu'il y aura des absents. Il y a eu un nombre incalculable de blessés après le match face à l'Afrique du Sud. On sait qu'Antoine Dupont ne sera pas là. On se demande qui va jouer à la mêlée. Ça peut permettre aussi de tester d'autres joueurs.
Tester des joueurs, non. Le staff du 15 de France, il n'est pas adepte des cadeaux et du turnover. Ils vont garder l'ossature qui a battu les Springboks et l'Australie et remplacer les blessés, Baye, Dupont, le suspendu. Et je crois que c'est Danty au centre. Voilà.
Ouais, il y a des joueurs qui vont grappiller un peu de temps de jeu, mais voilà, on n'en est plus à l'expérimentation. Donc, comme disait Marco, on va garder l'ossature, on va remplacer les joueurs absents. voilà, des joueurs qui étaient certainement les finisseurs qui vont gagner un peu de temps. Ce n'est pas sur ce match-là qu'ils vont gagner les places de titulaire, mais je pense que ce match, il doit surtout nous servir à nous rassurer un peu offensivement, parce que c'est vrai que sur les deux derniers matchs, on a rencontré une opposition quand même physique coriace. On a été surpris par le niveau des Australiens. Les Sud-Africains, on n'a pas été surpris, mais ça a été costaud. On a eu du mal à enchaîner les phases de jeu et à tenir le ballon. Donc, je crois que ça va être important dimanche à Toulouse de soigner un peu le côté offensif, ouais, et puis d'aller chercher des essais construits. Alors, bien sûr, hein, on aime marquer sur des ballons récupérés, sur des miettes. C'est toujours important d'avoir cette capacité de contre. Mais voilà, je crois qu'on sera quand même plus dangereux comme on l'a été pendant le tournoi si on arrive à tenir le ballon. Voilà, parce qu'à ce jeu, c'est quand même plus facile d'avoir le ballon que de défendre.
Ouais, mais alors, je suis complètement d'accord sur le fait qu'on a envie d'en voir plus offensivement. Et puis même, voilà, on a gagné beaucoup de fins de match avec des scénarios de dingue. On a envie dans un match supposé plus simple, peut-être, enfin, on espère tous voir un festival français. Mais attention, historiquement, ces matchs de tournée contre l'adversaire supposé le plus faible, ils ne sont pas toujours simples à aborder et à préparer. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas toujours non plus totalement souri au 15 de France, parce que c'est pas facile. Je veux dire, c'est normal que depuis plusieurs semaines, les Français, ils avaient la tête à l'Australie et à l'Afrique du Sud. Et c'est humain, c'est logique. Je vous rappelle juste l'année dernière, la tournée, on ne fait pas non plus un match exceptionnel contre la Géorgie. Je vous rappelle qu'en 2018, les Fidji sont venus gagner au Stade de France. Donc je sais pas. Donc je sais pas, toi, Imanol, tu l'as connu. Et je suppose que c'est peut-être moins simple entre guillemets de se préparer mentalement à affronter une équipe supposée plus faible que.
C'est toujours plus compliqué de se motiver. Maintenant, il y a aussi cet objectif de série de matchs gagnés en cours. Donc c'est un objectif important. Je pense que ça peut être une source d'inspiration et de motivation pour cette équipe. Voilà, sans ça, c'est vrai que d'avoir un match comme ça de moindre mesure après avoir joué deux gros morceaux, c'est toujours plus compliqué. Il peut y avoir un relâchement, une sorte de décompression, surtout en se disant que voilà, ils ont pris 50 points ce week-end et que ça va être facile. Ça peut pas être si facile que ça, parce que les Japonais, je pense qu'ils vont avoir à cœur aussi, eux, par contre, de bien finir cette tournée. Donc, alors, ça peut être un piège parce qu'on connaît le contexte et aujourd'hui l'équipe de France prépare tout pour éviter les matchs pièges, mais ça peut être un contexte plus compliqué en tout cas pour trouver la motivation.
Bon, on sait que Charles Olivon sera le capitaine de cette équipe en l'absence d'Antoine Dupont. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimeriez voir, vous, à Toulouse avec ce maillot bleu? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous attendez tout particulièrement?
Ben moi, j'aimerais voir Maxime Lucu débuter avec le numéro 9 voilà, sur un match comme ça. Il a grappillé quelques minutes la semaine dernière où il a encore été très, très bon, un peu plus que d'habitude, sur le temps de jeu en tout cas. D'habitude, c'était plutôt 10 minutes. Bon, là, il a eu pratiquement une demi-heure. On l'a vu, hein, il a mené un supplément d'âme, d'envie, et c'est ce qu'il fallait face aux Sud-Africains. Et je pense qu'il a fait plus que tenir la baraque. Voilà, moi, j'ai envie de le voir sur un match complet, parce que si on le laisse encore remplaçant, et il va être muselé dans ce rôle de bon gestionnaire quoi, de fins de match. Et je pense qu'il est capable d'amener un peu plus. Alors, c'est pas Antoine Dupont, mais il a d'autres qualités.
Moi, j'aimerais voir Bastien Chalureau avoir un petit peu plus de temps de jeu. Quoi. Je l'ai trouvé très bon sur l'entrée en jeu. Il cale quand même la mêlée.
De Montpellier.
Ouais, le deuxième ligne de Montpellier. Là. Ouais, ouais. Il a calé la mêlée. Il a fait beaucoup de bien sur son entrée en jeu en fin de match. Et j'aimerais le voir sur une demi-heure, voire une mi-temps complète.
Et dans le même registre, on peut penser quand même que Reda Wardi pourrait démarrer et pourrait jouer plus longtemps. Reda Wardi qui a également fait une très bonne entrée quand même. Ce week-end qui plaît au staff depuis un petit moment, qui a été retardé par son carton rouge qu'il a pris à La Rochelle, mais c'est un mec qui franchement peut venir s'imposer, en tout cas dans la rotation. Par rapport à ce que tu disais, Imanol, on sait que le staff apprécie aussi quand même beaucoup les qualités de Maxime Loucou pour terminer les matchs. Ils ont fait de ces fameux finisseurs un credo ultime dans leur choix. Et c'est une assurance aussi pour eux que d'avoir Maxime Loucou pour terminer les matchs, même si ce n'est pas toujours simple de tenir ce rôle. Maxime Loucou, il a vachement bien accepté sa fonction et sa mission depuis un moment. Je crois que ça justifie aussi ses bonnes performances. Moi, juste pour terminer, je ne sais pas l'état exact dans lequel va être Danti et quel rôle il va jouer. S'il n'est pas prêt, moi, j'aime bien Moefana au centre quand même. Moi, j'aime bien, il y aura Moefana au centre. Je trouve que c'est normal qu'il joue à l'aile quand on a la paire Danti-Ficou, mais c'est quand même le poste où il est le plus intéressant, c'est au milieu de terrain. Et s'il a la chance d'y démarrer un match là avec le 15 de France, moi, ça me plairait de regarder ça quand même.
Eh bien, on aura la réponse dimanche avec ce dernier test face aux Japonais. Messieurs, ça va être l'heure de se quitter. Alors, je me suis fait taper sur les doigts la semaine dernière par Imanol parce que j'étais parti trop rapidement sans leur rendre suffisamment hommage. Donc voilà, cette fois-ci, je voulais prendre mon temps avant de terminer ce numéro d'Arrêt Buffet. Saluer comme il se doit notre légende Imanol. Merci Imanol d'avoir été avec nous encore une fois.
C'est pas du tout ce qu'on a dit. On a dit que tu avais envie de finir. T'avais coupé court alors qu'on était bien ensemble. qu'on se projetait sur le match des Sud-Africains, donc voilà. On souhaite plein de bonnes choses.
Ça manquait de chaleur.
On souhaite plein de bonnes choses à l'équipe de France pour dimanche. Et moi, j'ai même une petite pensée pour Romain Tamac qui va jouer à domicile. Donc, je lui souhaite de bien prendre du plaisir sur ce match et de se lâcher. Voilà.
Je suis bien d'accord.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le cas Romain Tamac, mais on en a déjà parlé la semaine dernière. Lui qui, c'est vrai, sort de deux prestations, on va dire peut-être un peu plus neutres que d'habitude. Et on attend de voir comment il va se comporter devant les siens, devant son public. Merci Jérémy, merci Marco. Alors toi, ça y est, maintenant tu as privatisé l'auditorium, il va falloir partir maintenant peut-être un moment.
Je vais filer à l'entraînement, là. Je vais avoir deux, trois infos sur la compo, là. C'est un peu trop tard. Mais...
Bon, on suivra ça dans le midi olympique de vendredi, soit pas en retard quand même. Allez, salut à tous. Merci.
Ciao les gars, ciao.
Ciao. Ciao, merci.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.